Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre pour cette deuxième heure d'émission en votre compagnie, Julie, en compagnie des auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant. Au standard, cette émission sur les animaux et la gendarmerie va vous captiver, je le pense, liée à une exposition qui vient d'être inaugurée au musée de la gendarmerie nationale à Melun, des animaux et des gendarmes. Comment servent-ils la patrie? Depuis quand les chiens ou les chevaux travaillent aux côtés de ces militaires? Sur quelles missions sont-ils spécifiquement affectés? Quels animaux sont blessés, parfois tués pour sauver des vies? Et comment les gendarmes les honorent? Eh bien, on fait le tour d'une question noble et émouvante avec vos réactions et vos appels.
Vous composez le numéro d'Europe 1, le 3921, et on vous rappelle.
C'est parti jusqu'à 11h.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec cette exposition consacrée à cette relation, très belle relation entre ces hommes et ces animaux, ces gendarmes et ces animaux, que croyez-vous savoir? Sous-titrez-vous pour cette exposition inaugurée vendredi. Benoît Berbuche, bonjour.
Oui, bonjour.
Commandant de gendarmerie, chercheur spécialiste de l'histoire de la gendarmerie et commissaire adjoint de cette expo. Avec nous en studio, Jean-Pierre Desgard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS et commissaire général de cette exposition. Que croyez-vous savoir? Pas grand-chose finalement, hein, quand on découvre tout ce monde. Je m'adresse à ces Français et à leur sensibilité à l'égard des animaux aujourd'hui. Nous avons 67 millions de Français, 63 millions d'animaux domestiques. Alors évidemment, vous êtes allé bien au-delà de cette relation avec les animaux domestiques, mais vous vous êtes dit aussi qu'il y avait évidemment une empathie dans la population pour comprendre ces relations.
Alors, tout à fait. Alors, quand on parle d'animaux et de gendarmes, on pense tout de suite aux animaux auxiliaires utilisés par
Exactement.
Les gendarmes au cadre de leur service. Mais finalement, la thématique est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche que ce que l'on pourrait croire au départ. Et donc, ça a été un peu l'occasion de cette exposition d'explorer un peu toutes ces pistes, tous ces thèmes liés à l'image de l'animal et du gendarme qui dépassent ses missions, mais aussi les représentations et qu'on peut retrouver dans cette exposition.
Bien sûr, car les gendarmes ont obligation d'intervenir face à un animal dangereux, un fauve qui s'échappe, un animal aussi en situation de maltraitance. C'est tous ces liens-là que vous explorez.
Voilà, exactement. Et comme on a aussi un regard historique, hein, puisque c'est un musée historique, on s'aperçoit que ces interventions sont finalement très anciennes et vis-à-vis de certains animaux qui ont représenté dans l'histoire des menaces. Je pense notamment à des animaux emblématiques qui a longtemps, si on peut dire, hanté l'imaginaire collectif, qui est le loup, par exemple.
Évidemment.
Ainsi, dans les archives, on retrouve des interventions des gendarmes qui ont participé, donc à l'époque c'était la maréchaussée, par rapport aux premières battues contre cette fameuse bête du Gévaudan, par exemple, qu'on a entendu parler. Mais aussi plus récemment, ou même au 19e siècle, ces attaques de loups, comme on a pu retrouver cette pièce d'un gendarme qui était à Boudelandes, en Ille-et-Vilaine, et qui, un jour de repos, a été amené à intervenir parce qu'on criait « au loup, au loup ». Et donc il raconte, je veux dire presque en direct, si on peut dire pour l'époque, cette attaque de loup à laquelle il a été confronté.
Ouais, et ce qui est fort, c'est que nous avons une institution de 8 siècles, la gendarmerie, Jean-Pierre Bigard. Nous avons ces scènes traditionnelles de capture ou de chasse au loup. Des gendarmes qui continuent à faire face à des situations parfois insolites. 200 cochons évadés sur l'autoroute A10 il n'y a pas si longtemps, Jean-Pierre. On est encore dans ce lien assez insolite, parfois.
Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de vous corriger sur deux points.
Oui.
Mon nom n'est pas Bigard, mais Digard.
Ben oui, non, parce que je suis centré.
Et deuxièmement, vous avez dit qu'il y a en France 63 millions d'animaux domestiques.
Oui.
Non.
Il y a 7 beaucoup, millions de chiens.
Il y a beaucoup plus que ça d'animaux domestiques.
Oui.
Mais une fois de plus, et comme ça se fait de plus en plus, vous confondez animaux domestiques et animaux de compagnie. C'est 63 millions d'animaux de compagnie qui sont, mais pas toujours, des animaux domestiques.
Oui.
Le chien et le chat sont des animaux domestiques, mais les naques, dont on va parler peut-être tout à l'heure, nouveaux animaux de compagnie, ne sont
pas... Au départ, pas des animaux domestiques,
voilà.
Pardon, oui.
Mais la vache, le mouton, le porc sont des animaux domestiques, mais pas encore de compagnie.
Alors, double mea culpa, monsieur Digard, j'ai
Très
appris
bien.
En travaillant cette émission, un terme, les bêteleux.
Oui.
Étonnant, alors dites-nous ce que ça
alors,
veut dire.
Les bêteleux, c'est un mot qui était très en usage au 19e siècle dans les campagnes d'Île-de-France et qui servait à désigner un paysan qui, sans avoir reçu de formation différente de celle des autres, montrait un don particulier pour le maniement des animaux.
Oui.
On appelait ça un bêteleux.
Et c'est le cas pour un certain nombre de gendarmes?
Ah ben certainement,
oui.
certainement. Certainement.
Qui ont été forcés à cette formation sur le terrain.
Eux ont reçu une formation,
oui,
les gendarmes, en plus.
Oui, alors, quand il y a 200 cochons évadés qu'il faut récupérer, là, c'est quand même le bon sens, le calme, voilà, le sang-froid, oui. Voilà.
Et au-delà d'aspect comique, c'est aussi après la sécurité,
bien
sur les autoroutes.
Sur la voirie, oui.
Et on retrouve un certain nombre de ces affaires un peu extraordinaires, notamment sur les pages Facebook des réseaux sociaux, qui sont généralement diffusées par la gendarmerie.
Oui.
Je pense aussi à une autre histoire, c'était aussi un lynx qui s'était échappé il n'y a pas très longtemps.
Oui.
C'était du côté de Saint-Tropez en plus, hein, qui est plutôt connu pour la gendarmerie. Et là encore, les gendarmes étaient amenés à intervenir. Et ce lynx, en fait, s'était échappé d'une propriété. Donc c'était parfois, il faut savoir aussi qu'il y a des animaux sauvages qui sont détenus par des particuliers.
Oui, c'est ce qu'on appelle la mode parmi les NAC, est au fait là en ce moment.
C'est vrai.
Il y a
un petit puma qui vient d'être.
Il y a 15 jours, des policiers ont trouvé dans une Maserati garée aux Champs-Élysées, sur le siège passager de la voiture, un lionceau.
Quelle tristesse.
Et c'est y a un trafic. Alors, ce que je voulais ajouter aussi, c'est parmi les missions très importantes de la gendarmerie, il y a non seulement les animaux maltraités ou élevés dans des conditions inappropriées, voire indignes, mais il y a aussi toute la protection de la faune sauvage et la lutte contre le trafic d'animaux vivants ou de parties d'animaux comme les défenses, les dents de
c'est
tir.
C'est du ressort de la gendarmerie.
Parce que c'est aussi en partenariat avec
des douanes aussi. Hein.
Voilà, exactement,
qui sont très. Mais par exemple, un garde champêtre n'est pas un militaire. C'est un homme assermenté, mais à policier.
Non, parce que
c'est des employés municipaux.
Il y a aussi l'Office national des forêts maintenant qui joue aussi un rôle par rapport à ces aspects-là.
Oui.
Et historiquement, si on repart après sur la protection, par rapport au braconnage aussi, là aussi le gendarme était souvent avec le garde champêtre à l'époque pour protéger une partie des animaux des forêts.
Les animaux et les gendarmes, une histoire méconnue, je vais vous donner la parole juste après la pause. Jean-Pierre Digard, Benoît Haberbusch également. Le musée de la gendarmerie nationale à Melun a inauguré l'exposition sur ce thème vendredi. Vous avez le temps, c'est jusqu'en septembre. Mais c'est passionnant avec ses photos, ses histoires, ses vidéos, des décorations aussi qui retracent ses récits. On fait le tour du sujet. N'hésitez pas à réagir ou à questionner nos invités. C'est le moment jusqu'à 11h sur Europe 1.
Des animaux et des gendarmes. Une longue et bouleversante histoire et le thème d'une exposition qui vient d'être inaugurée en Seine-et-Marne à Melun. On en parle jusqu'à 11h.
Avec nos invités, Jean-Pierre Digard, anthropologue, commissaire général de cette exposition, auteur de « L'animalisme est un anti-humanisme » aux éditions CNRS, vous qui êtes directeur de recherche émérite au centre de CNRS. Benoît Haberbusch, commandant de gendarmerie, chercheur spécialiste de l'histoire de la gendarmerie. Vous avez dû vous régaler en composant cette exposition. D'où vous est venue cette idée ?
Alors, en fin de compte, l'idée, donc, après, il y avait déjà eu plusieurs expositions. On avait d'abord exploré la Grande Guerre, et puis après les sciences du crime, et puis les gendarmeries du monde. Donc là, en fait, le thème s'est imposé pour voir un peu, justement, comme je disais tout à l'heure, on connaît un peu le cheval et le chien par rapport aux gendarmes. C'était l'occasion de découvrir et d'enrichir un peu ce rapport très particulier qu'a pu avoir les gendarmes, une catégorie de population un peu particulière, avec tous ces animaux.
Oui, animaux auxiliaires aussi. Parlons des insectes, Jean-Pierre Digard, qui sont aujourd'hui des petites créatures qui peuvent aider notamment à décréter la date de mort d'une personne, en analysant l'état de décomposition du corps. Ils sont très utilisés aujourd'hui par la gendarmerie.
Oui, alors ça, c'est la spécialité du département faune et flore forensique, du centre de recherche criminelle de la gendarmerie.
Ça, c'est incroyable. J'ai fait une émission avec eux.
Et là, il y a une entomologiste d'une extrême compétence qui ont développé une spécialité qui a été découverte à la fin du 19e pour la datation du cadavre. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que sur un cadavre, un certain nombre d'espèces d'insectes se succèdent toujours dans le même ordre. D'abord des diptères, c'est-à-dire des mouches qui viennent pondre des œufs qui donnent des larves, des asticots autrement dit, et ensuite des coléoptères, c'est-à-dire des carabes, des scarabées, qui sont des prédateurs des diptères et notamment de leurs larves. Et ils appellent ça des escouades, il y a un certain nombre d'escouades qui se succèdent sur le cadavre, toujours dans le même ordre. Et quand on leur appelle pour dater un cadavre, ils relèvent tous les insectes qu'ils trouvent sur le cadavre, et en fonction des espèces qu'ils trouvent, ils sont capables de dater la mort de la personne à 3 jours d'erreur près.
Ouais.
C'est tout à fait,
ça, c'est incroyable,
tout à fait remarquable.
Voilà, donc, par exemple, quelque chose que vous apprenez en visitant cette exposition, qui est assez ignorée de la population.
Dans quelques jours, le 16 février, un des représentants de ce service-là viendra au musée expliquer un peu ce service très particulier vis-à-vis du public.
Évidemment, il y a une grande imagerie d'Épinal que vous avez su mettre en scène. Nous parlions des battues de loups il y a quelques instants sous l'Ancien Régime. Histoire qui nous met évidemment au corps à corps avec le cheval auxiliaire, s'il en fut, de la maréchaussée, hein, qu'on Exactement. N'appelait pas gendarmerie encore à l'époque. Jean-Pierre Digard, vous avez là pour le coup tout un tas de littérature et d'imagerie autour de ce compagnonnage.
Oui, principalement le cheval a été l'animal de transport par excellence des gendarmes et jusqu'à le remplacement par la bicyclette puis par les véhicules à moteur à partir de au milieu du 20e siècle à peu près.
Bon.
Mais le cheval était absolument fondamental et d'ailleurs les missions, le champ géographique des brigades était déterminé par la distance qu'un cheval pouvait faire en allant et en revenant dans une journée. Mais quelquefois plus, puisque on peut déflorer tout de suite une anecdote croustillante. Dans la dernière partie de l'exposition, consacrée où il y a des caricatures de gendarmes, et les gendarmes sont caricaturés comme harengs-sort. Pourquoi harengs-sort ? Parce qu'après des expéditions de 3, 4 ou 5 jours sans enlever leurs bottes, quand ils les enlevaient, ça sentait le
poisson. L'histoire
du cheval est vraiment très intimement liée au début de l'histoire de la gendarmerie, donc de la maréchaussée à l'époque. On peut dire en quelque sorte que le cheval a construit la maréchaussée, hein, puisque comme on le disait, dès l'implantation des premières brigades, il y avait toujours l'écurie qui était donc à côté, hein, dans ces premières petites casernes. Et comme on le disait, dans le maillage, c'est vraiment le cheval qui permettait d'organiser les brigades des unes par rapport aux autres à l'époque.
Oui, on est toujours très fiers de croiser la garde républicaine avec ses chevaux magnifiques. On se demande simplement, c'est vrai dans certaines scènes un peu de chaos, si le cheval a encore sa place aujourd'hui, carapaçonné au milieu des grenades de désencerclement. Et
alors justement, oui. Alors par rapport à la garde républicaine, c'est maintenant donc la dernière unité montée de l'armée française. Et par contre, donc la garde républicaine n'utilise plus de chevaux pour le maintien de l'ordre depuis le 6 février 1934.
Alors, d'accord. Donc, qui voit-on à cheval, notamment pour les opérations de maintien de
l'ordre ? Récemment, vous avez pu voir des reportages où c'était la police, en fait.
C'est la police montée.
Voilà, essentiellement.
Oui.
Et sinon, par contre, la garde républicaine assure des missions de sécurité publique à cheval.
C'est sa patrouille et surveillance. Hein.
Voilà, notamment, par exemple, pour les grandes manifestations, sur des stades ou des choses comme ça, mais pas de maintien de l'ordre.
Et pourquoi ? Vous avez considéré que le cheval n'avait plus sa place dans ces attroupements ?
Historiquement, en fait, c'est à partir du 6 février 1934 que la gendarmerie a abandonné le cheval pour le maintien de l'ordre.
D'accord. Voilà.
Parce qu'il y a eu une répression très, très violente, c'était l'affaire Stalinski.
Voilà.
Il y a eu une répression très violente et à partir de ce moment, la garde républicaine a décidé de ne plus impliquer ces animaux dans des opérations violentes comme celle-là.
On parle de chevaux, du rapport entre les gendarmes, les animaux et les chevaux en l'occurrence, avant une petite pause. Dans cette exposition, vous verrez aussi une pièce prêtée par l'école vétérinaire de Maison-Alfort. C'est
Exactement.
Un mannequin de cheval.
Vous
nous expliquez le sens de ce mannequin écorché, Jean-Pierre Digard.
Oui, c'est un mannequin fait selon la technique dite du papier mâché.
Oui.
C'était la spécialité d'un médecin qui s'appelait le docteur Rouzou, qui vivait au 19e siècle, et qui faisait des écorchés, aussi bien humains qu'animaux, qui étaient démontables et qui montraient toutes les pièces anatomiques peintes, etc. Donc c'était pour les gendarmes un instrument de formation en hippologie.
Oui, parce qu'ils devaient avoir une vraie connaissance. D'ailleurs, ils finançaient eux-mêmes leurs montures.
Exactement, c'est la particularité. Le gendarme achetait sa monture
et en prenait soin.
Et ça, il faut insister sur le fait que aussi bien les cavaliers que les maîtres de chiens de la gendarmerie ont une formation extrêmement approfondie. Une connaissance très approfondie de leurs animaux.
On va en parler avec Yves Bourret qui nous rejoint dans cet échange, gendarme adjudant-chef, maître chien depuis 23 ans. D'ailleurs, il sera avec nous dans quelques petites minutes pour parler de ce lien, de ces liens très forts, de cette histoire méconnue entre les animaux et les gendarmes. On évoquera d'autres animaux curieux que vous trouvez notamment au musée de la gendarmerie depuis vendredi. A tout de suite avec vos réactions, vos témoignages, vos questions, tout ce que vous voulez. On vous attend au standard avec Julie.
Au 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Les animaux et les gendarmes, une histoire méconnue et le thème d'une exposition dont nous parlons ce matin avec vos invités, Wendy Bouchard, Benoît Aberge
Aberbuche.
Décidément, on écorche vos noms ce matin. Commandant de gendarmerie, chercheur spécialiste de l'histoire de la gendarmerie et commissaire adjoint de cette exposition des animaux et des gendarmes. Et Jean-Pierre Digard, qui est anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et commissaire général de la même exposition.
On parle à la fois des animaux auxiliaires de ces gendarmes et on va venir évidemment aux chiens. Voilà, sa noblesse est souvent honorée, sa bravoure aussi, avec des récompenses, des cérémonies officielles. On y viendra. Yves Bourret témoignera comme maître chien depuis 23 ans et gendarme adjudant-chef. Mais parlons d'autres animaux curieux qu'on évoque au musée de la gendarmerie. Avant toute chose, c'est vrai que lorsqu'on se promène à pied, à cheval ou en voiture, si j'ose dire, sur une route de campagne, qu'on trouve à la fois des animaux sauvages, blessés, sauvages ou pas d'ailleurs, des animaux divagants, c'est la gendarmerie qu'on prévient d'abord, hein, qu'on doit prévenir
en tout cas. Les animaux divagants par exemple, oui, tout à fait. Oui. Et après, si c'est des animaux, parce qu'on peut intervenir aussi d'autres forces, comme je pense aux pompiers notamment, pour certains types d'animaux aussi.
Oui.
Mais sinon, c'est vrai qu'au quotidien, si on peut dire, la gendarmerie peut être amenée parfois à faire face à ce type de mission.
Bah, un renard blessé sur le bas-côté d'une route, on vous appelle. Et ensuite, vous confiez l'animal
voilà,
au
service. Voilà, exactement.
Et vous êtes souvent mobilisé pour ce genre d'intervention?
Ça peut intervenir, surtout dans certaines brigades, dans les zones rurales, effectivement, ou ces genres de choses, ou même aussi les accidents avec les sangliers, notamment, toute la faune sauvage qui peut comme ça arriver brutalement sur les routes.
Pourquoi parle-t-on, Jean-Pierre Digard, d'une girafe à Melun en ce moment? Quand on évoque les animaux et les gendarmes.
Eh bien parce que à la fin du 19e siècle, le sultan d'Égypte, Mehmet, je ne sais plus combien, a fait don au roi Charles X d'une girafe qui a débarqué à Marseille et qui a été convoyée à pied, escortée par des gendarmes, de Marseille à Paris, où elle a été confiée à la ménagerie du jardin d'acclimatation.
Alors, vous allez me dire quel rapport avec les gendarmes? En fait, c'est que
parce
les gendarmes.
Parce qu'ils ont convoyé.
Voilà, ouais, de brigade en brigade, il y a eu deux gendarmes qui, jusqu'à Paris, ont escorté cette girafe qui avait tout un cortège avec elle, avec deux vaches laitières pour la nourrir et tout.
Donc,
et au fur et à mesure, là, il y a eu véritablement un engouement du public.
Oui.
Et arrivé sur Paris, il y a eu le début de la girafomania qui s'est déroulée, en fin de compte, avec à travers beaucoup de produits. Il y a eu une mode carrément par rapport à cette girafe-là et qui a véritablement marqué les contemporains à l'époque. C'est la première girafe qu'on voyait en France.
On parle girafe, mais aussi dromadaire.
Voilà.
Alors là, avec une mission particulière. Qui dromadaire qui est auxiliaire, pour le coup.
Voilà,
de
exactement. On parle du cheval, mais il y a aussi le dromadaire, pour une unité particulière, qui sont les méharistes, puisqu'il y a eu des gendarmes méharistes, tout dans le pourtour saharien, dans les espaces coloniaux de l'époque.
Alors, pareil, en Algérie. 19e siècle.
C'est assez récent finalement, puisque c'est dans les années 50 qu'il y a eu donc ces gendarmes méharistes en Algérie, au Niger et au Soudan à l'époque.
On est vraiment dans une relation qui fait du gendarme des protecteurs aussi de la population, mais aussi des animaux en détresse, en danger. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, Jean-Pierre Digard, sur lequel vous avez travaillé, c'est le braconnage. Braconnage aussi à l'échelle internationale. Historiquement, le gendarme a une mission de lutte contre ce braconnage, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Ce braconnage est quelque chose de très important, puisque j'ai oublié le chiffre d'affaires, mais le montant exact du chiffre d'affaires mondial, mais il situe le braconnage international au quatrième rang, derrière le trafic des stupéfiants, le trafic des malfaçons et la traite des êtres humains.
Ouais.
En quatrième rang.
C'est terrible. Ouais.
Donc c'est quelque chose de très... Et ça décime la faune des pays. Défense d'éléphants, corne de rhinocéros et dents de tigre. Et tout ça va vers l'Asie du Sud-Est. Il y a un trafic très très important. Et puis des animaux vivants pour fournir ces fameux NAC, nouveaux animaux de compagnie, dont notamment les Émirats du Golfe sont très friands.
Et alors, à quel moment de cette lutte contre le braconnage, le gendarme intervient-il? Parce qu'on parlait notamment des douanes, d'autres services qui sont très opérationnels sur le sujet. Benoît Berbuche, commandant de gendarmerie.
Oui, alors déjà, peut-être on va revenir aussi un peu en arrière sur le braconnage, parce que finalement, c'est une mission très ancienne, donc comme on disait tout à l'heure, qui se faisait avec le gendarme et le garde champêtre.
Oui.
Mission aussi parfois dangereuse, puisque le gendarme était confronté parfois à des missions véritablement mortelles. Plusieurs d'entre eux ont payé cette mission de leur vie. Et on a retrouvé, par exemple, c'est au cimetière d'Aix-en-Provence, une petite tombe comme ça, qui était le gendarme Pecot. Donc on était au 19e siècle, qui a été tué par un braconnier. Et donc la municipalité avait offert une tombe pour ce gendarme et ils avaient orné cette tombe d'un magnifique lion que l'on peut voir toujours donc, dans ce cimetière là-bas. Quoi. Et donc on retrouve un certain nombre de missions comme ça. Donc le gendarme intervient dans cette lutte contre soit le braconnage, puis après tous les trafics d'animaux, comme on l'a dit, avec notamment un service, je ne sais plus si on l'a évoqué, hein, l'OCLAEPS, qui est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui a été créé en 2004 et qui est actuellement à Arcueil.
Vous sentez, et dont la cible principale est le crime environnemental organisé.
Ouais. Vous sentez une sensibilité évidemment de la population pour ces missions là aussi. Ça vous rend aussi évidemment humain et en empathie auprès de cette nature, de cette faune qu'on respecte tant aujourd'hui.
Alors on peut dire oui, voilà que le gendarme maintenant participe pleinement à la protection de l'environnement et c'est d'ailleurs une mission qui est aussi très ancienne comme je l'ai dit pour le braconnage, mais aussi pour la protection de la maltraitance animale par exemple. On retrouve dans le mémorial de la gendarmerie, qui est le recueil de tous les textes réglementaires de l'époque, dès 1859, une circulaire sur la protection contre la maltraitance animale, en fait.
C'est-à-dire qu'en cas de maltraitance avérée, on peut saisir et en
exactement
informer une association
voilà
qui
SPA,
aura besoin de la SPA, la Fondation Bardot, Fondation voilà des Biens d'Amis, et qui feront appel à vos services.
Exactement,
hein,
oui.
Pour retirer ces animaux des mains de leurs propriétaires.
Exactement.
Et vous êtes souvent appelés, notamment dans les campagnes, pour chevaux, pour les ânes maltraités.
Exactement, voilà. Tout à fait.
Commandant Haberbusch, vous êtes avec nous, ainsi que Jean-Pierre Digard, directeur de recherche au CNRS, anthropologue et commissaire général de l'exposition qui se tient depuis vendredi à Melun au musée national, un musée de la gendarmerie nationale plutôt. Et on fait le tour de la question. On va parler de ses auxiliaires, de ses compagnons de mission, les chiens maintenant, l'animal le plus représentatif de ce lien entre l'animal et la gendarmerie. A tout de suite avec vous et le témoignage d'Yves Bourret, gendarme adjudant-chef et maître chien depuis 23 ans. On fait le tour de la question sur la relation entre les gendarmes et les animaux qui sont leurs auxiliaires, leurs compagnons de mission, en particulier le chien.
Eh oui, le chien qu'on évoque maintenant avec Benoît Haberbusch, commandant de gendarmerie, Jean-Pierre Digard, anthropologue, tous les deux commissaires de l'exposition des animaux et des gendarmes. Et avec vous, Yves Bourret, gendarme adjudant-chef au groupe d'investigation de Benne dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous, vous qui êtes maître chien depuis 23 ans. On va préciser tout de suite qu'il y a au sein de la gendarmerie aujourd'hui 454 unités cynophiles spécialisées dans la recherche de personnes, dans l'intervention en avalanche, dans la localisation d'explosifs, dans les assauts, dans la localisation aussi de stupéfiants. Je crois que c'est l'une de vos particularités à Benne, Yves Bourret.
Oui, c'est ça. On a un petit peu toutes les spés. Et moi, je travaille depuis quelques années maintenant avec un chien de recherche de produits stupéfiants et jumelé avec un chien de recherche de produits accélérateurs d'incendie.
D'accord. Et ce matin, d'ailleurs, vous étiez sur une perquisition avec une
c'est
unité
ça
de la brigade des stupes. Comment se déroule l'intervention, en l'occurrence, avec votre compagnon à quatre pattes?
Alors, en fait, le chien est là pour faciliter le travail sur les enquêteurs de manière à trouver les matières stupéfiantes qui peuvent être cachées et les sommes d'argent liées au trafic. Quand les scènes sont sécurisées par mes collègues des pelotons d'intervention et des unités de recherche, j'interviens avec le chien pour localiser la matière stupéfiante et trouver ce qu'il y a à trouver.
Alors, comment s'appelle votre chien? De quelle race est-il, pour commencer et pour le présenter?
Alors, j'ai un chien d'une race un petit peu atypique, parce que c'est un Staffy, un Staffordshire Bull Terrier.
Oui. Je ne savais pas qu'il y en avait dans la
gendarmerie.
Oui.
Mais il nous en reste plus qu'une. On en avait deux à un moment donné. On avait Enzo qui était en recherche de restes humains à Gramma et il nous reste Electra qui est en stup. Et je travaille avec elle depuis avril 2010. Elle s'appelle Electra.
Donc. Electra.
C'est une star, Electra.
C'est une star.
Ah, oui, oui.
Ah, incroyable. Et, alors, et pourquoi cette race en particulier? Parce que c'est vrai qu'elle est peu représentée.
Alors, elle est peu représentée. Notre cœur de métier, nous, avec les chiens, c'est plutôt le berger belge malinois et le berger allemand, parce que c'est des chiens de travail créés par l'homme pour le travail de l'homme. Mm-hmm. Et on a une polyvalence pour le travail qu'on a à faire. Maintenant, c'est vrai qu'avec la création des groupes d'investigation cynophiles, on peut se tourner vers des races un petit peu plus sporadiques, comme le Springer, comme le Staffy, comme le Jack Russell, comme le Fox, qui nous permettent de travailler différemment, de changer l'image qu'on peut avoir vis-à-vis du public aussi, et de passer dans des endroits où les chiens seront peut-être plus à l'aise, on s'adapte à la délinquance. Quand on travaille dans un train avec un berger allemand de 40 kilos, Electra, avec ses 17 kilos, est peut-être beaucoup plus à l'aise qu'un berger allemand. Donc on s'adapte à la délinquance, on s'adapte aux besoins que les unités elles ont, et de manière à que ce soit avec les chiens ou avec les méthodes de dressage.
Et on comprend et on sent et on entend votre expertise. Et Yves Bourret, maître chien depuis 23 ans, vous êtes devenu un fin connaisseur aujourd'hui du monde canin, manifestement.
Et on essaye de se tenir au courant.
Quel résultat ce matin pour Electra?
Alors, on a fait ce matin, on a fait une plaquette et demie de résine avec quelques autres prises un petit peu moins importantes, mais chez la même personne, on a trouvé une plaquette et demie, ce qui permet d'asseoir certaines infractions par rapport aux enquêteurs.
Elle a trouvé, et il faut qu'elle soit, ou que le chien soit opérationnel en toutes circonstances. C'est là aussi où la relation qu'il noue avec son maître est fondamentale. Il doit l'apaiser éventuellement.
Tout à fait. On doit faire connaître à notre chien un maximum de choses et un maximum de milieux, puisque que ce soit en recherche de stup, en recherche d'explos ou en recherche de personnes, les chiens ne travaillent jamais dans les mêmes milieux, ni sur les mêmes odeurs. Donc il faut que le maître soit là pour faire connaître un maximum de choses au chien, de façon à ce que le chien soit à l'aise dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle condition. Donc on essaye en entraînement de recréer les conditions les plus difficiles, de façon à ce que en opérationnel, ce soit plus simple pour le chien. On a plein de paramètres à mettre.
Ça veut dire, Yves Bourret, qu'il y a un entraînement régulier, éventuellement quotidien ?
Bien sûr, plus le chien est jeune, plus il a besoin de travailler et qu'on mette en place les choses. Donc après notre sortie de stage à Gramma, qui dure quand même 14 semaines, il y a encore plein de travail à faire.
Gramma, qu'est-ce que c'est ? C'est une école de
formation ? Alors, c'est le Centre National d'Instruction Gendarmerie. Tout ce qui est cynophile en gendarmerie passe obligatoirement à Gramma.
Et Gramma, ça se trouve,
c'est dans le Lot,
c'est ça ?
Dans le Lot, entre Brive et Cahors.
Oui. Donc 14 semaines d'apprentissage.
De nos 14 semaines de stage où on apprend à travailler avec notre chien, parce que c'est une particularité des stages en gendarmerie, on commence le stage avec notre chien et on sort avec le chien qu'on a eu en stage. Arrive sur une unité et on a beaucoup de travail encore à faire.
Juste un petit mot, et permettez-moi de revenir. Il y a un petit mot qui est intéressant pour ce lien qui va se créer entre le maître de chien et le chien. On appelle ça un mariage, parce que pour bien montrer, c'est ce binôme qui va devenir très complémentaire les uns avec les autres.
C'est-à-dire, et le mariage, quand vous commencez ce stage, Yves Bourret, on vous attribue un chien et le mariage intervient au terme de 14 semaines, c'est ça ?
Alors, le mariage intervient bien avant les 14 semaines, puisqu'on aura travaillé avec. Donc, à titre d'exemple, on commence les stages le lundi. Les attributions sont faites le mercredi des chiens. Et on est une administration, on est la seule administration à le faire, où on attribue les chiens en fonction des tests psychologiques qu'on va faire au maître, de manière à équilibrer les caractères des chiens et des maîtres.
Formidable.
Pas mettre un chien qui va être excessif à un maître qui va être timide, et l'inverse, de manière à ce que l'osmose se fasse assez rapidement. Donc on est la seule administration à le faire, et donc le mariage se fait le surlendemain du début du stage, à l'issue des tests, de façon à ce qu'on voit les caractères des uns et des autres.
C'est passionnant, avec le dressage et l'apprentissage toujours placés au nom du jeu, il n'y a pas de contraintes. Et je crois qu'Alain Bougrain-Dubourg qui en parlait et qui sait l'amour que nous avons des animaux, nous disait qu'il est allé visiter cette école à Gramma et que ça se fait vraiment en douceur et en bonne intelligence.
Tout à fait. Toutes nos bases de dressage, quel que soit l'espèce, sont à base de jeu. Et sous la contrainte, on n'obtient rien de bon. Si on fait un parallèle avec l'humain, quand on contraint l'humain, c'est pas top. Alors que quand on apporte de manière ludique les choses, ça passe mieux. Donc le chien, ça sera pareil. Tout est basé au jeu et on essaye au maximum d'avoir un cadre militaire et un cadre de travail, soit, mais avec une éducation positive dedans.
Vous avez connu combien de chiens en 23 ans de maître chien Yves Bourret ?
Là, Electra, c'est ma troisième, puis j'ai Fidji, ça m'en fait quatre.
Oui. Lorsqu'ils sont trop âgés ou trop fatigués pour exercer leur mission, que deviennent-ils, ces animaux ?
La plupart d'entre eux rentrent au domicile avec le maître, donc c'est le maître qui les récupère ou le maître le place lui-même de manière à avoir une visu sur le chien ensuite. On passe énormément de temps avec nos chiens, c'est nos binômes. C'est un peu plus qu'un chien, ça n'est pas qu'un matériel du tout. Donc c'est vrai qu'on a une relation très forte avec les chiens. Et à l'issue, à la retraite, on les garde souvent.
Et voilà, on va réagir sur ce binôme attachant 500 chiens engagés, Yves Bourret, dans les différentes unités cynophiles de la gendarmerie. L'armée de terre travaille avec 450 chiens. Le RAID compte 12 chiens spécialisés dans la recherche d'explosifs et dans l'assaut. Le GIGN en a 4. Electra a bossé avec vous encore ce matin. Vous restez avec nous, Yves Bourret. J'aimerais bien que vous témoignez de nouveau avec Benoît Haberbuche, commandant de gendarmerie, Jean-Pierre Digard, qui est commissaire général de l'Expo des animaux et des gendarmes. On va revenir sur les chiens au service de la patrie. A tout de suite avec Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous
nous parlons de ces animaux qui servent la patrie aux côtés des gendarmes. On va parler des chiens, bien sûr, et on aura un petit chapitre chat.
Ah bah oui, je crois bien. J'ai posé la question comme ça pour de rire, mais bon. Benoît Berbuche, commandant de gendarmerie, réagissons à ce que nous disait à l'instant Yves Bourret, maître chien depuis 23 ans, et il nous parlait de ces différentes races d'animaux, de chiens, utilisés par la gendarmerie. Le chien qui apparaît paradoxalement assez tard dans
Exactement,
l'histoire de votre institution.
Tout à fait. Autant le cheval, comme on l'a dit, est vraiment à l'origine de la maréchaussée, oui. Autant le chien apparaît finalement assez tard, à partir des années 1940-1943. Et donc, on a évoqué Gramma, en fin de compte, va s'installer à partir de 1945.
Oui, le chenil central à Gramma.
Voilà. Hein. Et pendant très longtemps, en fait, le chien et le gendarme et le chien ont été un peu comme chien et chat, si on peut dire, puisque le chien était interdit dans les casernes. En revanche, le chat était toléré, puisque dans les casernes, on pouvait posséder un chat, notamment pour chasser les souris, ce qui était quand même assez utile à l'époque.
Ah oui, c'est ça. Mais donc à partir de 1940, on se dit... oui, ouais. C'est calme. On se dit que le chien peut être un auxiliaire aussi, puisque là, voilà. Yves Bourret parlait de binôme, dans un certain nombre de missions de la gendarmerie.
Exactement. Alors si on remonte aussi un peu dans le temps, on s'aperçoit quand même qu'au niveau de la police, les chiens policiers apparaissent à la fin du 19e siècle. Et notamment, ça va être du côté de la Belgique et de la Hollande, où on va utiliser des chiens policiers. Alors pas des chiens de pistage à l'époque, c'était plus pour faire un binôme avec le policier et pour se protéger contre les bandes de délinquants de l'époque. Et justement, ça va beaucoup intéresser les commissaires parisiens, qui eux, à l'époque, sont confrontés par une bande de criminels particuliers qu'on appelait les Apaches. Et donc, on va avoir des premiers chiens qui vont intervenir comme ça dans les commissariats parisiens, donc au début du 20e siècle. Et donc, la gendarmerie, elle va utiliser ces chiens à partir de 1945 à Gramma, où il va y avoir d'abord aussi un élevage de chiens qui sera fait d'abord sur place jusqu'au début des années 50. Et donc, ces chiens, bien sûr, là, vont être utilisés pour le pistage, pour les gardes, et à partir des années 1970, les avalanches. Et après, on va avoir véritablement une diversification des technicités canines qui vont se développer à partir donc de ces années-là.
Bah c'est vrai qu'Yves Bourret, alors ce n'est pas votre spécialité, mais lorsqu'on parle d'avalanche, le recours à ces animaux reste utile, indispensable, voire ça permet de gagner du temps vraiment sur ces terrains si accidentés pour le coup.
Tout à fait. Et là, en plus, il y a une vie en jeu. Donc, c'est pas seulement faire gagner du temps à un enquêteur pour boucler une enquête de stup. Là, on a vraiment sur la notion de secours et la notion de vie qui est en jeu. Ça s'est illustré il y a encore peu de temps avec le jeune homme qui a été retrouvé sous la neige il y a quatre ou cinq semaines. Donc, on s'aperçoit vraiment que c'est un outil qui nous permet de travailler et qui peut sauver aussi des vies. C'est ce qui est très important.
Et comme on le rappelait, on diversifie les technicités de recherche. 1970, les chiens pour les victimes d'avalanche, 73 les stupéfiants, 88 les explosifs, 99 les traces de sang, 2001 les armes et les munitions, 2007 les chiens renifleurs de billets par exemple. Voilà. Alors ils arrivent assez tard chez nous, mais ils sont performants aujourd'hui, Yves Bourret.
Oui, tout à fait. C'est un complément. Alors, il ne cherche pas le faux, il cherche le vrai billet.
Oui, enfin, voilà, plutôt. Ouais.
C'est le vrai billet, puisque tout trafic génère des transferts de fonds généralement en numéraire. Donc, ça nous permet d'attaquer la délinquance sur les deux fronts, en saisissant les matières illicites d'une part et les fonds qui sont générés par le trafic.
Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux sont honorés, Jean-Pierre Digard. Et ça, c'est toujours très fort, récompensé pour leurs bons et loyaux services. Ça commence avec Moustache au XIXe siècle, récompensé par Napoléon pour son dévouement pendant les batailles. Et puis, ça se prolonge régulièrement jusqu'à cette chienne qui a créé tant d'émotions, cette chienne du raid Diesel, tué pendant l'assaut à Saint-Denis après les attentats de Paris. Il y a eu vraiment une émotion collective après sa disparition.
Alors, vous évoquez Moustache, en fin de compte, donc c'était pas un chien de gendarme à l'époque, mais c'était un chien mascotte, en fait, qui avait suivi la grande armée de Napoléon, qui avait participé à plusieurs batailles et qui est mort à l'une d'entre elles, en fait. Donc, d'abord, le chien, c'était d'abord des mascottes. Mais par contre, c'est vrai qu'après, donc, les chiens employés par la gendarmerie ont eu, effectivement, des décorations. Alors, on n'a pas l'équivalent pour les chevaux, mais par contre, les chiens, eux, ont donc reçu des décorations. Et parmi les chiens, il y en a deux, hein, particuliers aussi dans l'histoire. Le premier, c'est le chien Gamin, hein. Donc, c'était en Algérie, en 1958, qui a été le premier chien à recevoir la médaille de la gendarmerie, la plus haute distinction donc au niveau de la gendarmerie. Et actuellement, il y en a deux, donc c'est le chien Gamin et le chien Alan en 2001 qui a aussi reçu la médaille de la gendarmerie.
Diesel, par exemple, a été décoré à titre posthume. Hein.
Voilà, bah oui, malheureusement.
Oui, non, mais voilà.
Donc appartenait au raid.
Mais pour avoir permis de sauver une vie humaine en tombant elle-même sous les balles.
Voilà,
les
dans des conditions très particulières d'engagement. Oui. Tout à fait, oui.
Ce sont des cérémonies qui sont à chaque fois émouvantes, Yves Bourret. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté, si vous-même, avec votre binôme, vous avez été récompensé.
Alors non, avec mes binômes, je n'ai pas été récompensé. J'ai monté un dossier pour une des équipes cynophiles de mon unité suite à ses résultats en pistage, parce qu'elle m'a quand même fait 14 positifs directs en 3 ans et demi. J'ai fait en sorte de monter un dossier pour qu'il ait une récompense, oui. Donc il a eu la médaille de bronze de la défense nationale.
Oui.
Et c'est vrai que c'est toujours c'est au cours d'une prise d'armes où on remet la médaille, entre guillemets, au chien. Donc c'est une prise d'armes, ça a déjà une valeur militaire à nos yeux, puisque notre statut militaire fait que des prises d'armes, on en fait. Et quand c'est pour récompenser en plus le chien, proprement dit, qui est considéré comme autrement que notre outil de travail sur ce coup-là, donc c'est vrai que ça fait plaisir et c'est très très émouvant.
Oui, on a vu des images fortes, notamment de chiens détecteurs d'explosifs amputés d'une patte et recevoir aussi cette médaille. Donc voilà, ils ont donné aussi de leur chair, de leur peau, ils sont là à vos côtés. Ils entendent et ils reçoivent les applaudissements, manifestement, Yves Bourret.
C'est ça. Ouais.
On fait encore le tour de la question. On va parler d'autres animaux.
Les chats, alors, on n'a rien dit.
C'était juste pour les souris.
Ah, c'était que pour les souris.
C'est un peu décevant. C'est dans les casernes.
C'était un peu décevant.
Il y a toujours le binôme chien-chat avec les chiens qui aboient, donc ils sont éliminés. Et pour les animaux alimentaires, il y a le même problème entre les lapins et les poules. Parce que les coqs, ça crie, ça chante, ça dérange, alors que les lapins, c'est silencieux. Donc, on favorisait plutôt les lapins.
Ah là là, le culte du silence.
Mais il faudrait parler un peu des chevaux.
On va y revenir justement, Jean-Pierre Digard. Je vous sens attentif à cette thématique. À tout de suite. Et à l'équilibre d'espèces, les animaux, les gendarmes, jusqu'à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Les animaux et les gendarmes, c'est une très longue histoire qu'on vous raconte pour quelques minutes encore, jusqu'à 11h. Et pour établir un juste équilibre entre nos deux spécialistes en studio, après avoir longuement parlé des chiens, on va parler des chevaux.
Voilà, avec Jean-Pierre Digard, commissaire général de cette exposition, des animaux et des gendarmes, et notamment des métiers qui sont liés aux chevaux au sein de la gendarmerie. Ça, c'est passionnant.
Oui, comme ça a été dit, le régiment de cavalerie de la garde républicaine reste la seule unité montée de l'armée française, qui a plusieurs missions. D'abord, l'appareil et la sécurité du chef de l'État, mais aussi des missions, non pas de maintien de l'ordre, mais de surveillance, des sorties de stades, ça a été dit, mais aussi des espaces verts, des parcs d'ostréiculteurs au moment des fêtes pour qu'il n'y ait pas de vol d'huîtres et des choses comme ça. Et puis, un rôle très important de conservatoire, non seulement des techniques d'équitation en armes, et puis de conservatoire des métiers qui sont liés à
l'artisanat.
Alors, l'équitation en armes, c'est quelque chose de très particulier, mais qui nécessite un très haut niveau équestre. C'est pas par hasard que l'un des colonels du régiment de cavalerie est ensuite devenu écuyer en chef du cadre de Saumur. Il s'agit du colonel Loïc de la Porte du Teil. C'est pour vous montrer le niveau. Ensuite, aussi bien là où se situe le régiment de cavalerie, c'est-à-dire au quartier Célestin, boulevard Henri IV, et au quartier Carnot, derrière le bois de Vincennes, ainsi qu'à Saint-Germain-en-Laye, il y a plus de 400 chevaux. Ces chevaux sont ferrés, en gros, tous les 25 jours. Ça fait une activité très importante pour les maréchaux ferrants, qui ont longtemps pratiqué des techniques particulières. On leur livrait de la barre de fer, et ils faisaient des fers sur mesure pour tous les chevaux. Donc c'était une activité très importante et qu'ils étaient les seuls à pratiquer.
Pour le travail du cuir, pour toute la sellerie.
Alors ensuite, donc ça c'est à la caserne Vérine, place de la République à Paris. Vous avez des celliers qui font les...
sont des gendarmes qui sont celliers ?
Oui, des gardes, bien sûr. Ensuite, vous avez des casquiers. Le fameux casque modèle 1874, je crois, comporte, je ne sais plus, 80 pièces. Et le montage d'un casque, c'est 5 heures de travail.
C'est
y compris la crinière, qui doit être mèche par mèche insérée dans le casque. C'est un travail considérable.
Et à la caserne de Vérine, il y a aussi une presse à selle.
Oui, la presse à selle de plusieurs tonnes, qui fait parce qu'il y a une selle, c'est faite d'une armure, qui est l'arçon, sur lequel on met les pièces en cuir, qui sont les panneaux. contre lesquels sont les jambes du cavalier et le siège sur lequel il s'assoit. Et ce siège est formaté par une presse qui fait plusieurs tonnes.
Enfin, alors, tout ça est aussi présent dans l'exposition sur ces métiers-là liés aux animaux, dans l'exposition à Melun.
Alors la presse de plusieurs tonnes, non, on ne l'a pas déplacée.
Évidemment. Mais c'est bien de rappeler aussi cet artisanat représenté par ces gendarmes.
C'est vraiment des métiers d'art qui sont là et on se demande ce que seraient devenus ces métiers sans la garde républicaine.
Spécificité, technicité, on en revient aussi à votre propre métier, Yves Bourret, maître chien depuis 23 ans, c'est aussi cela qui vous touche dans cette institution qui est présente depuis 8 siècles avec un beau rapport aux animaux depuis le début, un rapport fort en tout cas.
C'est ça, tout à fait. Et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense, que les chiens nous réservent de belles surprises et on n'a pas fini d'exploiter toutes les qualités qu'ils peuvent avoir.
Avec différentes races représentées, vous nous en parliez tout à l'heure, on a ces bergers allemands, ces malinois, les chiens de la race Saint-Hubert aussi, vous avez déjà travaillé avec ces chiens aux longues oreilles, ces grands chiens d'arrêt, Yves Bourret ?
Non, je n'ai pas personnellement travaillé avec lui, hein. C'est des équipes en nombre restreint, ils doivent être une 20-25 là pour le moment. Ils sont en place depuis 2009, donc c'est une technicité qui est une espèce qui est assez récente.
Hein. Oui.
Donc on a peu de chiens, donc peu de maîtres travaillent avec eux en fait. Ils devaient être 20-25 équipes pour le moment.
Avec des Terre-Neuve, les Labrador Retriever aussi, pour les interventions en mer.
Parce qu'en fait, quand il y a
alors les Terre-Neuve, on les a arrêtés depuis un moment.
Ah bon, pourquoi ?
Les scooters des mers sont beaucoup plus rapides.
Ah oui. D'accord. Bon, c'est bien, vous économisez ces chiens aussi. Pardonnez-moi, j'étais encore à l'époque. Merci Yves Bourret, maître chien. Merci de votre intervention, de votre expertise. Merci à nos invités. Voilà, alors on ira vous suivre. Et on a le temps, parce que jusqu'en septembre, vous offrez cette belle exposition au public, au musée de la gendarmerie à Melun. L'un et l'autre, petit mot de la fin, pour nous dire pourquoi y aller.
Pour les auditeurs qui seront intéressés, ils pourront retrouver sur la page Facebook du musée les principales interventions qui viendront sur place, parce que ce sera l'occasion de découvrir des animaux véritablement qui viendront à ces occasions-là. Donc le programme sera consultable sur le Facebook du musée de la gendarmerie.
Très bien. Et vous pourrez vous dire un petit mot sur l'école de Gramma, juste pour terminer.
Oui, pour finir, si des gens ont des bergers belges malinois ou des chiens de races qui pourraient nous intéresser avec des caractéristiques qui sont intéressantes pour nous, qu'ils n'hésitent pas à contacter le Centre National d'Instruction Cynophile à Gramma et leur proposer les chiens. Et un maître de chien les contactera pour procéder au test sur le chien parce qu'il correspond aux besoins qu'on a.
D'accord, vous parlez
des personnes qui pourraient élever
ces chiens-là, d'accord.
Tout à fait, ou qui en détiennent et qui veulent se séparer des chiens. Donc on a besoin d'une centaine de chiens par an, donc les gens peuvent contacter Gramma.
Gramma, dans le Lot. Merci beaucoup. 10 secondes pour conclure, Jean-Pierre Digard.
Oui, je vous dis, dans cette exposition, les gens qui voient très souvent les animaux à travers le prisme de leur animal de compagnie découvrent un rapport de travail entre des hommes et des animaux.
Oui.
Et c'est un rapport très riche,
merci.
Fait de confiance et de respect mutuel.
Et d'histoire, vous l'avez bien dit. Merci à tous et on se retrouve demain, ma chère Julie. Merci de votre fidélité sur Europe 1.
C'était Wendy Bouchard. À demain.